Serge Chevalier, pierres éclatées, attend son enterrement d'un bel enneigement. La pudeur d'une chambre, la réalité nue. En ce mois de novembre, la ville est dévêtue. La chair en est durcie et les bras sont pendants. Assise sur son lit, la fiancée.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter la fois.
On fait, on donnait de leur sueur, donnait de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Il est 19h04, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du lundi.
Et oui, et au sommaire de ce Canu Info, le temps que je retrouve mon petit conducteur.
On commence à l'international.
À l'international avec la situation et la mobilisation en Iran. Puis le mouvement social de début d'année contre les mesures austéritaires en Tunisie. On passera au national avec un sondage qui prouve que les Français croient à la théorie du complot. On ira ensuite faire un tour du côté des violences policières très très nombreuses, hélas, avec un retour sur le non-lieu pour les flics assassins de Rémi Fraisse et d'autres violences qui ont eu lieu ces derniers temps et en 2017. Ensuite, on ira parler de la tribune des bourgeoises pour le droit d'importuner les femmes. On parlera de Macron encore, président des riches, breaking news. Et on ira ensuite.
J'ai hâte, celui-là.
Ça, c'est une exclu le pas, monde. Ouais. Ouais.
Notre experte ira ensuite analyser le projet sur la loi sur l'asile et l'immigration de Gégé Collomb. Et au local, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir des invités
de marque,
bien, de marque. À savoir donc les militants du collectif Agir Migrants, qui sont dotés depuis très peu de temps, depuis ce week-end, d'un local pour abriter les personnes de Nelson Mandela desquelles ils s'occupent depuis quelques temps, et ainsi que nos copains de la cabine qui a subi l'attaque policière super violente samedi dernier. Et on terminera l'émission, peut-être si on a le temps, avec un sujet sur Laurent Wauquiez.
Alors, À l'international, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé en Iran fin décembre, début janvier. Alors, selon le régime, il ne s'est rien passé, mais la réalité est tout autre. Alors, la protestation, elle a commencé jeudi 28 décembre, dans la seconde ville du pays, à Massad, où des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la vie chère, contre les politiques d'austérité, et également contre la banqueroute de certaines banques, orchestrées par le gouvernement. Alors, le fait que les manifs aient commencé à Massad a servi au gouvernement pour affirmer que cette mobilisation était orchestrée par les franges et une fraction réactionnaire du régime iranien pour déstabiliser le président Rouhani, classé dans le camp des réformateurs. Alors, des réformateurs en Iran, c'est quand même faire partie du camp de l'extrême droite fondamentaliste chiite, hein, mais moins radical que celle d'Ahmadinejad, l'ancien président. Et donc, ce Rouhani qui a rempilé pour un second mandat, hein, en mai 2017. Alors, pourquoi Massad? Puisque Massad, c'est une des villes de l'islam chiite rigoriste, et c'est pour ça que le régime, hein, c'est une manière pour le régime de ne pas se remettre en cause et d'étouffer la contestation. Mais problème, le mouvement s'est généralisé à la plupart des grandes villes du pays et les revendications sont principalement sociales et également politiques, hein, une remise en cause politique de ce système. Alors, sur le plan social, c'est la lutte contre l'austérité. L'austérité, c'est la fin des allocations sociales qui concernent 20 millions de personnes, la hausse du tarif du gaz et de l'essence, de nouvelles taxes, etc. Alors qu'en parallèle, l'État iranien dépense des sommes faramineuses dans sa politique interventionniste extérieure au Yémen, en Syrie et en Irak, hein, avec un soutien, un financement, une participation à l'organisation des milices chiites, et au Liban avec un soutien militaire et économique au Hezbollah. Et tout ça pour maintenir à flot le capitalisme iranien, en gagnant de l'influence dans la lutte réactionnaire que Téhéran livre face à la monarchie saoudienne. Alors ce mouvement, il prend plusieurs formes. De nombreuses grèves ont eu lieu dans le secteur pétrolier, dans la chimie, dans l'industrie mécanique. Il y a eu de très nombreuses et de très massives manifestations avec beaucoup de chômeurs. Il y a un chômage de masse en Iran et beaucoup d'étudiants. L'entrée en scène du mouvement ouvrier et étudiant avec ses méthodes de lutte, c'est-à-dire la grève, des conseils d'usine, des quartiers populaires, des assemblées générales dans les facs, a clairement fait peur au régime réactionnaire et autoritaire iranien. C'est l'Iran pauvre des zones périurbaines et rurales qui est descendu dans la rue, contrairement à 2009, dans un pays, hein, on le rappelle, qui regorge de richesses naturelles, mais où 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce mouvement, il y a également une forte participation des femmes, dont certaines n'ont pas hésité à enlever leur foulard dans les manifestations pour porter des revendications antipatriarcales spécifiques. Qui plus est, les manifestants ne remettent pas seulement en cause la politique gouvernementale, mais le régime lui-même. Mort à Rouhani, mort à Khamenei, on a pu entendre ou voir sur des banderoles ou des pancartes. Hein, le Khamenei, c'est le guide suprême. Pour rappel, hein, ce régime fondamentaliste chiite, il est à la tête de l'Iran depuis 79 et au pouvoir sur les cendres de la révolution sociale et ouvrière opposée à l'ancien régime pro-américain. Alors évidemment, la réponse du régime a été la tentative d'étouffement et surtout une très très féroce répression. Il y a quelques jours, les autorités revendiquaient 450 interpellations et on dénombre au moins, et ça c'était il y a quelques jours encore, 21 morts côté manifestants. Le régime a d'ores et déjà annoncé la fin du mouvement par un communiqué, mais ce qui s'est passé durant une grosse semaine, donc fin décembre, début janvier, est loin d'être un coup d'épée dans l'eau. Des jonctions entre les différents secteurs en lutte ont été faites entre les différentes villes mobilisées et sont toujours intactes. Et c'est aussi à nous, hein, militants internationalistes, de crier haut et fort notre solidarité envers les prisonniers politiques iraniens et envers les différents acteurs de ce mouvement social qui est visiblement loin d'être terminé, contrairement à ce que veut bien nous faire croire le régime iranien.
Et on va passer sur des problématiques un peu similaires, mais en Tunisie, où, comme chaque mois de janvier depuis 7 ans, les commémorations de la chute de Ben Ali font l'objet de manifestations. Mais cette année, le mouvement est national et de beaucoup plus forte ampleur que d'habitude. Malgré la révolution de 1911, la Tunisie, success story du printemps arabe, se porte toujours bien niveau répression. Dès le premier jour de mobilisation, une nuit d'affrontement a donné lieu à la mort d'un manifestant. Mesures austéritaires pour compenser la baisse du tourisme, hausse de la TVA, un pôle plus injuste qui touche même les personnes qui ne gagnent pas d'argent. Les travailleurs, la jeunesse et les classes populaires, le mouvement se poursuit dès le lendemain et les jours suivants, avec tout de même une baisse progressive de la fréquentation des manifs, puisque le nombre d'arrestations par les autorités se portait vendredi à 780, notamment parmi les militants et militantes d'extrême gauche anticapitalistes. Mais le nouveau régime mafieux, une étrange coalition d'anciens bénalistes, de technocrates, de démocrates entre guillemets et d'islamistes, n'a pas attendu la répression du mouvement de 2018 pour montrer son visage. Et la sous-traitance impérialiste aura de beaux jours devant elle tant que la majorité de la population continuera, encouragée bien entendu par la répression, à baiser la main qu'elle ne peut mordre.
Et national maintenant, alors non-lieu pour le gendarme impliqué dans l'affaire Rémi Fraisse. Alors ce 8 janvier, la justice a enterré définitivement l'affaire Rémi Fraisse. La famille de Rémi Fraisse, ce jeune militant de 21 ans qui a été tué par la grenade offensive d'un gendarme le 26 octobre 2014 à Sivens, n'obtiendra donc finalement pas justice. Le gendarme impliqué dans la mort de Rémi a finalement bénéficié d'un non-lieu après une enquête qui a traîné en longueur durant 3 années. De l'aveu de nombreux médias, pourtant peu sensibles à la question des violences policières, celle-ci s'est avérée bâclée et partiale, n'enquêtant jamais sur les faits en question, mais tentant de démontrer par A plus B que la violence policière était justifiée. Aucune mise en examen n'a eu lieu en 3 ans. La justice a fidèlement épousé la thèse des gendarmes selon laquelle l'acte du gendarme ne découle que d'un simple enchaînement de circonstances malheureuses. Bien que le tir en cloche d'une grenade offensive ne soit pas réglementaire, l'inspection générale de la gendarmerie, les gendarmes des gendarmes, a par esprit de corporation dédouané ses propres hommes. De plus, ni la hiérarchie du gendarme, ni le préfet ne sont inquiétés pour leur rôle. Ne serait-ce que pour l'usage démesuré de la force ou leur volonté de cacher le décès de Rémi Fraisse dans les heures suivant l'événement. Le préfet du Tarn n'a jamais été entendu et aucune reconstitution du drame a eu lieu à Sivens, au barrage de Sivens. Quant au rôle de Cazeneuve et de M. Valls, il reste à éclairer. Ainsi, rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, encore et comme toujours, la police tue et la justice acquitte. Le climat d'impunité autour des violences policières en France atteint aujourd'hui des proportions hallucinantes. Rien que l'année dernière, c'est, selon Bastamag, près de 34 personnes qui ont été tuées par la police et les condamnations se comptent sur les doigts d'une main. Et évidemment, n'aboutissent pour les rares condamnations jamais à une peine de prison ferme. De la même manière que pour l'affaire Rémi Fraisse, le meurtre d'Adama Traoré emprunte lui aussi le long cheminement vers le non-lieu. L'instruction est évidemment au point mort et aucun gendarme a pour le moment été mis en examen. En revanche, les trois frères d'Adama sont, eux, bien enfermés actuellement. Depuis le début de leur lutte pour obtenir justice, la famille Traoré est victime d'une incroyable répression policière et judiciaire. Partout en France, la violence d'État a fait et continue à faire des victimes, que ce soit Angelo, Média Lyon ou Jérôme. Et partout, la justice culpabilise et criminalise les familles des victimes plutôt que de condamner les responsables. En 2014, l'État n'était pas à son coup d'essai lorsque ce jeune militant écologiste est mort. En 1977 déjà, Vital Michalon, qui était un militant antinucléaire, a été lui aussi victime du même type de grenade offensive sur le chantier de la centrale nucléaire Superphénix. Par conséquent, alors que le gouvernement envisage actuellement une opération policière et militaire de grande ampleur pour évacuer la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, l'annonce de ce non-lieu n'a absolument, mais alors vraiment, absolument rien de rassurant. On se souvient bien récemment que les grands médias réclamaient l'évacuation à tonnerre de tribunes en invoquant le fait que c'était des utopistes, qu'ils n'avaient rien à faire ici et que l'état de droit était bafoué. Ben, ces mêmes médias disaient « attention, il va y avoir des morts ». Et bien aussi, on a un moment où les médias dominants ils préparent déjà psychologiquement la population a accepté le fait qu'il va y avoir des morts lors de cette évacuation. Et parallèlement, la justice et l'État envoient un message clair aux forces de l'ordre, vous serez couverts. Voilà qui n'augure rien de bon quant à la violence à laquelle l'État risque de faire recours pour l'évacuation de ce lieu emblématique qu'est Notre-Dame-des-Landes.
Et oui, et 34 morts en 2017, donc c'est effectivement ce qui a été relevé par Bastamag. Et donc on va essayer de traiter deux petites histoires très très rapidement qui ont été le jour du Nouvel An relayées par la préfecture sous l'angle de quelques policiers qui avaient été maltraités par des personnes non policières.
Des quartiers populaires.
Voilà, des quartiers populaires. Et en fait, je vais commencer par l'événement à Champigny. Donc, un jour de l'an très mal organisé avec beaucoup, beaucoup de gens qui se massent pour faire la fête dans un lieu pas tout à fait aux normes, avec une organisation un peu bancale. Et là, en fait, il y a trop de gens, c'est ingérable. On appelle les policiers qui gaz en masse, qui envoie du flashball, qui blesse et blesse à plusieurs reprises certaines personnes. Et là, en fait, deux policiers donc de la municipale isolés et qui ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, ça certainement suite à un ordre un peu défectueux, se présentent et là se font bien entendu un peu réprimés par les gens qui viennent se faire gazer et flashballer et matraquer. Et donc, bien entendu, le lendemain, c'était scandale dans tous les journaux de TV, alors qu'en fait, il y a eu des centaines de personnes qui ont été gazées, frappées au flashball. Voilà comment la préfecture relaie certaines histoires que nous, on pourrait éventuellement relayer différemment.
Alors, on a une autre qui s'est passée le Nouvel An, c'est à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. Et immédiatement, donc encore une histoire de violence anti-flic, on titrait tous les médias, Le Parisien, Le Monde a repris exactement le communiqué de la préfecture. Donc comme lors des violences de Viry-Châtillon en décembre dernier, la mécanique est bien huilée, les flics communistes, les journalistes relais.
Sauf
les flics
communistes.
Les flics, cette bande de bolcheviques en arrière.
Ah ouais. Les flics communiquent, les journalistes relaient. Voilà, j'étais un peu perdu, excusez-moi. Mais encore une fois, une vidéo vient encore contredire la version officielle. On voit sur cette vidéo un jeune qui était sur un scooter se faire cogner par un baqueux qui a sorti son arme, qui lui met des coups avec la crosse sur le casque et sur le corps. Le flic pointe des gens du quartier qui veulent venir aider ce qui s'apparente à une nouvelle violence policière. Sont suivis ensuite des affrontements, etc. Dans cette cité des 3000. Et d'ailleurs, tout récemment, samedi 13 janvier, des habitants de la cité des 3000 se sont rassemblés pour demander la libération de Draman, 20 ans, qui a été interpellé en marge des affrontements, sans raison. Il était pas présent durant les affrontements et il est aujourd'hui incarcéré. Donc, une fois de plus, c'est la répression, l'instrumentalisation politico-médiatique de ce qui s'est passé en termes de violence policière.
Et loin de nous l'idée de vous encourager à vous en prendre aux flics. Ne tapez des flics que si vous vous sentez menacé, bien entendu.
Ou que si vous courez très vite après.
Pour continuer au national, on va parler de la tribune qui a été publiée sur Le Monde suite à une campagne de dénonciation des agressions sexuelles et du harcèlement sur les réseaux sociaux, les MeToo et Balance ton port, dont on a déjà pas mal parlé dans cette émission. Un collectif de 100 bourgeoises, composé entre autres de Catherine Millet et Catherine Deneuve, nous ont pondu une tribune dans Le Monde qui défend, je cite, une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle et qui affirme son rejet d'un certain féminisme qui exprimerait une haine des hommes. Donc, non contente de pondre un texte qui vient au secours des hommes puissants, les hommes de leur classe, et qui discrédite en l'expression enfin de la parole de milliers de femmes victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement en France, elles se font inviter sur tous les plateaux télé, donc notamment Catherine Millet, Brigitte Lahaie, et de radio pour en rajouter des couches avec une mention spéciale vomi quand même pour Brigitte Lahaie qui, je cite, nous sort un joli « On peut jouir lors d'un viol, je vous signale », ou Catherine Millet qui regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce qu'elle aurait pu témoigner que du viol, on s'en sort. Oui, oui, c'est bien ce qu'elle a dit.
Merci les meufs.
À partir de là, on ne sait plus trop s'il est vraiment utile de répondre aux arguments développés dans la tribune, mais on va quand même en examiner quelques-uns de plus près, à l'aide notamment d'un texte qui a été publié sur Mediapart et qui s'appelle « Les féministes peuvent-elles parler ?» que je vous recommande d'aller lire. Donc, qui explique que, bien sûr, cette tribune vient au secours des hommes puissants, revendiquant leur droit à importuner les femmes. La tribune explique que, de toute façon, les accidents qui peuvent toucher le corps d'une femme n'atteignent pas nécessairement sa dignité. Que la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Donc on peut déjà s'arrêter quand même, puisqu'on sait bien que Harvey Weinstein, duquel est partie cette campagne MeToo et Balance ton port au tout début, n'est pas un homme maladroit et timide, un peu gauche, incapable d'exprimer ses sentiments, placé dans un état de vulnérabilité face aux femmes et qui aurait fait quelques tentatives malencontreuses pour exprimer son désir.
Mais quand bien même d'ailleurs,
mais en plus le présenter, transformer ses agressions en décrivant des hommes maladroits et timides, c'est aussi nier tous les rapports de pouvoir et les contextes politiques, historiques et économiques qui les produisent. Et donc en faisant semblant d'alerter sur une confusion entre le harcèlement, le viol et la séduction, ce texte qui revendique la liberté d'importuner produit en fait cette confusion directement et contribue à disqualifier la parole des millions de femmes de plein d'origines sociales différentes qui ont choisi de témoigner sur les réseaux sociaux. Donc en fait, en se présentant comme un appel à la vigilance et une entreprise de libération morale, cette tribune concourt en fait à réaffirmer le pouvoir des dominants en sonnant un rappel à l'ordre conservateur.
Oui, en se cachant derrière justement la liberté sexuelle, et voilà, c'est ça quand même ce qui est un peu...
C'est un argument assez classique, les féministes s'opposeraient aux hommes et à la liberté sexuelle, mais de quelle liberté sexuelle on parle et au bénéfice de qui elle se fait ? Donc c'est bien, il n'y a pas de place dans tout ça à ce moment-là pour le désir et le plaisir des femmes. Ce serait uniquement la liberté sexuelle des hommes, comme d'habitude. Et on peut penser quand même que ces femmes qui ont rédigé ce texte n'ont pas une méconnaissance de tous ces sujets et qu'en fait, il s'agit aussi d'un choix politique de leur part, encore une fois, de défense des intérêts des hommes de leur classe.
Oui, et de l'ordre établi aussi, parce que c'est des bourgeoises avec lesquelles, effectivement, il nous semble compliqué de faire front face aux hommes, quoi. Donc, elles défendent aussi leur camp. Il y a un truc aussi qui est intéressant dans leur tribune, c'est comment elles inversent la question de la victimisation, puisque elles ont tendance à... Elles vont transformer... les hommes, justement, elles vont les mettre à la place des femmes, par exemple en soulignant le fait que ils vont être sanctionnés dans l'exercice de leur métier à la suite de ces dénonciations, contraints à la démission, etc. Ce qui sont des phénomènes qui existent pas du tout pour les hommes dont il est question, mais effectivement pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols ou de harcèlement sur leur lieu de travail. Et de la même manière, elles emploient le terme sorcellerie pour désigner, elles comparent ces dénonciations au temps de la sorcellerie où des femmes, une fois de plus, étaient condamnées pour leurs pratiques alternatives, on va dire.
Et je voudrais finir par lire un paragraphe de la réponse donc, qui a été écrite dans Mediapart. On comprend dès lors que cette union des femmes, donc en parlant des femmes qui ont choisi de témoigner sur les réseaux sociaux et de sortir justement du silence, on comprend dès lors que cette union des femmes passe pour si dangereuse qu'il faille la faire exploser, notamment en la dénigrant soit comme apolitique, il s'agit d'hystérique ou de pleurnicheuse, soit comme trop politique, elle mène une guerre contre les hommes. Cette méconnaissance radicale du projet féministe éclate très précisément ici. Les signataires de la tribune du Monde écrivent « En tant que femmes, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Or, comme le rappelle la féministe noire Bell Hooks dans « Feminism is for everybody », le féminisme est un mouvement qui vise à mettre fin au sexisme, à l'exploitation sexiste et à l'oppression. Cette définition énonce très clairement que le mouvement n'est pas anti-mal, il est clair que le problème est le sexisme. »
Et on va parler des Français qui croient à la théorie du complot. Rien ne va plus dans le monde libre, et plus précisément depuis que quelqu'un est en train de mourir dans le studio. Rien ne va plus dans le monde libre, et plus précisément dans notre Startup Nation, depuis un récent sondage IFOP alarmiste. Les Français sont conspirationnistes. Wow. La nouvelle s'est aussitôt répandue comme une traînée de poudre à travers la presse, la plus intègre qui soit, BFM TV, CNews, LCI, France 2, et a donné lieu à des commentaires unanimes et des gentils communicants, choquants, angoissant, édifiant, ahurissant, flippant. Car en effet, selon ce sondage blockbuster réalisé par Conspiracy Watch, observatoire des théories du complot, 79 des Français croient au moins à une théorie du complot parmi la quinzaine soumise aux personnes interrogées. Les jeunes électeurs et électrices de gauche étant les plus perméables à ces théories. 8 Français sur 10. Les médias mainstream ne se sont pas fait prier pour dénoncer l'ignorance, la stupidité du bas peuple à qui on accorde pourtant, de manière complètement irresponsable, le droit de vote, le droit de grève et autres possibilités de remuer à peine et sans conséquence. Mais au-delà des nombreux biais statistiques disqualifiant à eux seuls l'intégralité du sondage, examinons les énoncés des questions. À propos de la santé, par exemple, les réponses suspectant une proximité entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique sont jugées complotistes, tandis que les réponses réfutant ces thèses sont rangées dans la catégorie raisonnable. Pourtant, Mediapart avait relayé l'an dernier des propos de l'actuelle ministre de la Santé, alors directrice de la Haute Autorité de Santé, qui s'était prononcée en faveur des labos pharmaceutiques privés qui devaient désigner et fournir eux-mêmes les experts pour des raisons de compétence. La ministre n'hésitait pas alors à participer à plusieurs conseils de direction de labos privés. Concernant la liberté de la presse, les réponses des personnes sondées admettant que la presse puisse être soumise aux pressions du pouvoir politique et de l'argent seront elles aussi jugées complotistes, alors que celles n'admettant pas cette éventualité seront innocentées. En gros, écoute BFM et ferme ta gueule quand on te dit que tel pays qu'on va bombarder possède l'arme de destruction massive. La vérité ne peut émaner que des médias à la main des milliardaires, Bolloré, Niel, Pigasse, Lagardère, Dassault. Tout esprit critique, tentative de croiser les informations, compréhension des rouages est immédiatement disqualifiée. Et quand parallèlement, Macron parle de réformer le service public pour quelques trublions qui critiquent encore son hospitalité envers les migrants ou de faire la chasse aux fake news en fermant l'accès à certains médias, on pense à d'autres entreprises répressives de disqualification comme la catégorie islamo-gauchiste ou relais de l'islam politique et des terroristes réservés à celles et ceux qui dénoncent le racisme et l'islamophobie. On peut rappeler qu'à l'époque du Directoire, période de la Révolution française qui succède à la Révolution sociale et démocratique de Robespierre de 92-93, la droite...
C'est très très démocratique, c'est vrai, t'as raison. Non, mais faut le souligner, hein, c'est bien. Ouais.
On n'en parle pas assez souvent, la semaine prochaine on fait un dossier exclusivement sur...
Je m'en occupe.
Si tu nous entends.
La droite dure au pouvoir inventait, donc pendant le directoire, puisqu'on m'a coupé la parole, la droite dure au pouvoir...
Oh là là.
Non, mais c'est pour que les gens puissent suivre.
Pour qu'on reste en démocratie.
La droite dure, alors au pouvoir, inventait le terme conspirationniste pour qualifier ses opposants, jacobins et montagnards, qui, on peut effectivement l'imaginer, complotaient certainement en vue d'un retour de la République. Voilà donc une nouvelle offensive brutale, une opération punitive et répressive d'ampleur dirigée contre celles et ceux qui n'obtempèrent pas illico à la communication des patrons, des riches, de la préfecture. La contestant, voire combattant l'État bourgeois, le pouvoir, le racisme, le patriarcat, islamo-gauchiste, complotiste, non, ça il ne faut pas ou il vous en coûtera. Quant à nous, on ne saurait trop vous encourager à continuer de vous demander à chaque article lu d'où vient l'information, quel peut bien être l'intérêt politique de l'article en fonction du propriétaire du média. On ne saurait trop vous encourager à continuer de fomenter grève et complot contre les patrons, leur pouvoir et leur état bourgeois. Résistons à Charlie et aux injonctions, soyons la conspiration.
Ouh, ça c'est de la fin, ça. Pas mal.
La conspiration qui vient.
Aussi, on peut le dire aussi, hein. Au passage.
Et donc sans transition, aujourd'hui l'Observatoire français des conjectures économiques a publié une étude sur le projet de loi finance 2018 et les premiers effets de la politique économique du gouvernement d'Édouard Philippe. Alors pour rappel, hein, outre les ordonnances sur le travail, on ne va pas trop revenir dessus, hein, mais en gros la facilitation des licenciements, la précarisation des contrats et l'affaiblissement des outils de défense des salariés, tout ça dans le même sac. Donc outre ces ordonnances, on a eu quelques mesures bien antisociales depuis 6 mois. Alors entre autres chose, la suppression de l'ISF, la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, la baisse de 5 euros des APL ou encore la suppression de la quasi-totalité des emplois aidés, 270 000. Alors, le gouvernement nous prépare en plus une réforme de l'assurance chômage, histoire de bien taper sur les plus pauvres d'entre nous. Donc après toutes ces belles mesures, le rapport de l'OFCE souligne l'augmentation des inégalités que promet cette politique. Alors quels sont les constats du rapport ? D'une part, le gouvernement a choisi d'opérer des transferts dans l'économie, donc notamment en réduisant d'une part la fiscalité du capital et des entreprises au profit d'une hausse de la fiscalité indirecte, donc qui nous touche toutes et tous. Les baisses de prélèvements seront financées par ailleurs par une baisse des dépenses publiques, donc en premier lieu sur la masse salariale, mais aussi sur la politique du logement, la politique familiale, la santé et les dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Donc des réductions qui vont toucher, encore une fois, les plus pauvres d'entre nous.
D'autre part, l'étude relève que l'ensemble de ces mesures du programme économique de Macron sont par contre largement au bénéfice des 2% les plus riches, donc les ménages qui ont les revenus les plus élevés et qui détiennent la quasi-totalité du capital mobilier. Pour les ménages qui sont au bas de la distribution des revenus, les revalorisations des minima sociaux qui sont intervenues là en fin d'année ne permettent pas du tout de compenser la hausse de la fiscalité indirecte. Donc juste après le vote du projet de loi finance 2018, le 21 décembre, Gérard Darmanin, donc le ministre de l'économie, comme vous le savez tous, s'est félicité d'un budget de...
C'est Bruno Le Maire, je crois, le ministre de l'économie. Gérard Darmanin, c'est...
Le porte-parole, pardon.
Mais bon,
d'un budget de transformation de l'économie au service du pouvoir d'achat des Français. Donc au pouvoir d'achat des 2% les plus riches. Donc le bilan de ce premier mois de mandat est sans appel pour les pauvres, hein, plus de galères, plus de flicages, hein, notamment c'est ce qui va arriver aux chômeurs d'ici très peu de temps, et j'en passe. Bref, la guerre de classe a de beaux jours devant elle, et c'est à nous aussi de l'amener et de lutter dès à présent.
Bon, en tout cas, moi je suis très surpris de savoir que Macron est le président des riches, je viens de l'apprendre, et je te remercie d'avoir fait un sujet là-dessus.
Ouais, non, je vous en prie, ça me fait plaisir.
Au national toujours, on va parler un peu plus en détail du projet de loi sur l'asile et l'immigration qui s'appelle « Garantir le droit d'asile et mieux maîtriser les flux migratoires », tout un programme.
Il y a un sous-titre, c'est la guerre aux migrants.
Tout à fait, en détaillant un peu les mesures détaillées dans une note au Premier ministre. Donc je fais d'abord les mesures favorables, ça va aller très vite, il y en a trois. La durée des cartes de séjour pour une protection subsidiaire ou apatridie, c'est quand quelqu'un n'a pas de pays dont il est ressortissant, passe à 4 ans alors que ce titre de séjour était d'un an et d'un an actuellement.
Mais alors le problème c'est qu'on peut imaginer que du coup ça veut dire qu'ils vont en délivrer davantage.
Tout à fait. Oui, sûrement, ouais, ils vont en délivrer davantage du coup.
Donc, moins de protection définitive.
Ensuite, il y aurait une facilitation de la délivrance aux membres de la famille d'un réfugié mineur d'une carte de résident de 10 ans. C'est assez vague du coup, on attend de voir ce que ça veut dire, facilitation. Il y aurait pour les réfugiés mineurs l'extension du bénéfice de la réunification familiale non seulement aux parents, enfin aux ascendants directs, mais aussi aux frères et sœurs. Donc ça c'est une mesure du coup qui inclut les frères et sœurs en plus. Ensuite il y a les mesures favorables, mention spéciale riche dans ce projet de loi sur l'immigration, puisqu'on a une extension du passeport talent à de nouvelles catégories de personnes. Donc c'est un titre de séjour spéciaux pour les cadres, les gens super qualifiés, les artistes, etc.
L'immigration choisie dans toute sa splendeur.
Voilà. Et il y a aussi la création d'un passeport santé pour la patientèle solvable des hôpitaux. Parce que par contre, les pauvres qui veulent se faire soigner mais qui ne peuvent pas payer, on n'aime pas trop. Ensuite, il y a des mesures sur le droit au séjour, donc notamment justement une restriction des conditions d'accès au titre étranger malade pour les personnes qui sont réadmissibles dans un autre pays de l'Union européenne. Donc je vous fais la traduction, en fait ça veut dire c'est une manière d'empêcher les demandeurs d'asile en procédure Dublin de faire une demande de titre étranger malade en France pour ceux qui auraient des soins lourds à faire et qui demanderaient à rester en France à ce titre. Ensuite, il y a un renforcement des dispositions relatives aux reconnaissances frauduleuses de paternité, donc ce sera la chasse aux mères étrangères d'enfants français. En ce qui concerne le droit d'asile à l'OFPRA, on a une réduction de 120 à 90 jours du délai qu'ont les demandeurs après leur arrivée en France pour déposer leur demande d'asile. Au-delà de ces 90 jours, donc leur demande sera placée en procédure accélérée, qui quand même
aboutit généralement
à moins de chances d'obtenir effectivement une protection. Il y aura on va rendre opposable la langue déclarée en préfecture à l'OFPRA. Donc ça veut dire que les gens qui enregistrent une demande d'asile une première fois en préfecture en disant dans quelle langue ils voudraient faire cette demande ne pourront plus changer de langue une fois qu'ils ont indiqué cette langue la première fois. Donc voilà, ce sera dans la première langue qu'ils ont indiquée, même s'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne la maîtrisent pas assez pour s'entretenir à l'OFPRA, qui est quand même l'endroit où véritablement on va décider de se prononcer sur leur demande d'asile. Ensuite, à la CNDA, on a une réduction, donc la Cour nationale du droit d'asile, où on fait les recours contre les décisions de l'OFPRA, qui est donc l'administration qui prend des décisions sur les demandes d'asile. Donc à cette Cour nationale du droit d'asile, il y aura une réduction du délai de recours de 1 mois à 15 jours. C'est-à-dire que quand on reçoit une décision négative de l'OFPRA, au lieu d'avoir 1 mois pour faire un recours, on n'aura plus que 15 jours. Un développement du recours à la vidéo-audience CNDA. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir s'exprimer via Skype que de pouvoir s'exprimer directement devant des juges. Un aménagement du caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA dans 3 cas. Donc en gros, pour l'instant, tant que le recours à la CNDA n'a pas eu lieu, une personne ne peut pas être expulsée du territoire. Et si on dit qu'on aménage le caractère suspensif du recours, ça veut dire que la personne pourrait être éloignée du territoire alors qu'elle n'a même pas encore eu le temps de passer devant la CNDA pour son recours. Ensuite, concernant les contrôles, l'éloignement et la rétention, on a une augmentation de 16 heures à 24 heures de la durée maximale de retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Donc ça, c'est quand un étranger se fait arrêter par la PAF et emmené à la PAF et vérifier donc son droit au séjour, il pourra rester 24 heures. Un élargissement des motifs pour lesquels il peut être décidé de ne pas sortir une OQTF d'un délai de départ volontaire. Et je passe parce qu'il y en a beaucoup, mais insister quand même sur un renforcement du régime de l'assignation à résidence avec obligation de demeurer au domicile pendant une plage horaire. Et bien sûr, on en parle dans plusieurs médias, l'augmentation de la durée maximale de rétention administrative de 45 à 90 jours, avec une possibilité même de rajouter à ça encore 15 jours. Donc en fait, on passe de 45 à 105 jours de rétention possible. Voilà.
Donc il y a de quoi faire pour contester cette nouvelle loi, et d'ailleurs sans transition.
Oui, alors on va passer à l'actualité locale et à notre dossier du jour. Donc, je rappelle que samedi, donc il y a eu une manifestation qui a réuni plus de 500 personnes à Lyon, donc à l'appel de différents collectifs et organisations. Alors c'était une manifestation qui entendait dénoncer la politique antisociale et raciste de Macron et notamment de l'ensemble des mesures anti-migratoires à venir par Colomb. Donc on en parle toutes les semaines ici, notre seul horizon. Excusez-moi, on me fait déménager en même temps.
Il y a du monde qui arrive dans le studio, attention.
Du coup, je disais que le seul horizon que nous proposait Colomb, c'est bien la misère et la répression, et surtout pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de papier. Donc à la suite de cette manif, et pour fêter le premier mois d'anniversaire de l'Amphized, c'est ce bâtiment qui a été réquisitionné le 12 décembre à QC pour accueillir les expulsés de l'Appardieu qui étaient logés à la fac. Donc pour ce mois anniversaire, un nouveau bâtiment a été réquisitionné juste à côté, et c'est notamment, il est destiné à accueillir les familles qui sont aujourd'hui Esplanade Nelson Mandela, et c'est le collectif Agir Migrants qui va nous en parler tout de suite. Donc merci déjà d'être venu.
Salut.
Salut.
Est-ce que vous pouvez un petit peu rapidement présenter le collectif, peut-être ?
Alors, on est deux pour en parler. Collectif Agir Migrants, c'est un collectif citoyen qui s'est créé en mars 2017. Après déjà 3 expulsions de terrain successives, et là où sur les camps qui se constituaient sur des parcs publics, il n'y avait pas d'intervention, aussi peu d'associations, pas de réponse des institutions et des habitants qui intervenaient de manière individuelle. Et le collectif s'est constitué en se disant là il y a vraiment aucun groupe qui intervient, et comment faire ensemble valoir la force citoyenne en disant ce qu'on voit nous révolte. Et le collectif s'est constitué. Au départ, on était 1, 2, 3. Aujourd'hui, on est 192, c'est le dernier chiffre. Habitants, citoyens. Alors, ce qui est beau dans ce collectif, c'est qu'il y a à la fois des habitants qui n'ont jamais milité. Il y a des militants, il y a des personnes jeunes, âgées. Il y a absolument tous les profils. Et ça fait chaud au cœur. Parce que voilà, ça se passe Ça se passe sur le terrain, on fait de l'humanitaire. Là, pour le coup, voilà, on recherche des tentes, on du gaz, on rencontre, on écoute les migrants. Il y a aussi tout ce qui est juridique, des référés liberté qui ont été faits et essayer d'avoir une portée, de soutenir la cause. Au niveau politique aussi, essayer de. On a rencontré des élus. Maire de Lyon et métropole, et on s'est ça n'a absolument rien fait bouger, mais voilà, c'est et puis médiatique également. Donc en fait, on est à la fois sur le politique et l'humanitaire, et pour nous c'est vraiment important. Et le collectif, donc il n'y a pas de structure juridique, on fonctionne en commission, en AG, et c'est fort parce que il se passe quelque chose. Merci aux migrants aussi pour les rencontres que ça crée avec eux entre habitants. C'est fort ce qui se passe. Voilà.
Salut. Et j'aurais peut-être juste pu compléter en disant qu'on avait ouvert deux lieux déjà qui ont été fermés. Enfin, l'un d'entre eux a été fermé et que même malgré la trêve hivernale, c'est une bataille qui continue du coup pour essayer de faire le travail de la métropole et de la préfecture et de loger ces familles.
D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions dans lesquelles les personnes vivent au jour le jour au camp de l'Esplanade Nelson Mandela pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte un peu de ce qui s'est passé là-bas?
Alors déjà, c'est 5 expulsions. La 6e qui est en suspens, qui n'a pas eu lieu, mais qui a été prononcée par le juge du tribunal administratif. Ça a été jusqu'à 200 personnes sur le camp, détentes, et c'est la misère. Enfin, c'est un WC et 2 points d'eau pour 200 personnes. Coupures d'eau régulières dès qu'il gèle. En été, pareil, des coupures d'eau régulières. Pas de benne, on n'arrive pas à obtenir des bennes, ne serait-ce que pour les ordures. L'accès aux restaurants sociaux qui est impossible. Enfin, il n'y a que 5 jours accordés pour les migrants qui sont en attente de rendez-vous préf. Et ces délais se rallongent. On est à plus de 3 mois aujourd'hui. Donc des gens qui crèvent la faim, vraiment. Et une fois qu'ils sont enregistrés, après, ils mangent une fois par jour, ils bénéficient des maraudes sur place et peu de travailleurs sociaux qui se déplacent sur place pour suivre leurs droits, pour l'accès à la santé, CMU. Donc ça, c'est les habitants qui les accompagnent aussi pour essayer de faire ce lien. Voilà. Donc ça, c'est la situation concrètement.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de harcèlement policier sur le...
Il y a du harcèlement policier. Par exemple, en août, quand ils avaient été expulsés d'un endroit de l'Esplanade Mandela, ils étaient... Alors, quand il y a expulsion, déjà, sur les 5 expulsions précédentes, ce qu'on vit, c'est une chasse à l'homme dans Lyon. Tous les groupes qui partent d'un côté ou de l'autre sont suivis par les flics. Il y a des vigiles qui sont placés dans chaque parc, qui ont été placés dans chaque parc public, et ça coûte un bras, enfin des vigiles, c'est clair, et des agents TCL qui empêchent les migrants de prendre les transports en commun. Donc ça, c'est des journées d'errance et des nuits aussi, parce que toutes les deux, fin août, on a vécu fin août, début septembre, c'était la période la plus critique, toutes les 2 heures des contrôles policiers avec interdiction de monter les tentes, y compris pour les enfants et autres, et là, des harcèlements policiers, des comportements super violents, pour nous également, et une situation hyper critique qui est allée jusqu'à la menace d'être gazés. Ils sont arrivés un matin avec les gaz, mais les gaz n'ont pas gazé finalement, mais ça a été le paroxysme du harcèlement, quoi.
Et à Mandela aussi, comme la plupart de la population vient des pays des Balkans, et majoritairement d'Albanie, donc qui est classé comme un pays sûr par l'OFPRA, bien qu'on sache que ce ne soit pas le cas, que c'est un pays où il y a encore beaucoup de corruption, beaucoup de violence, quelque chose qui s'appelle la Kanoun, qui est une loi ancestrale de la vendetta, dont de très nombreuses familles sont victimes. Voilà, on les considère comme des migrants économiques, mais la majorité ne sont absolument pas migrants économiques, et fuient pour leur vie et pour leur sécurité. Et malgré ça, il y a quand même une grosse ségrégation à leur encontre sur pas mal de plans, donc que ce soit à l'OFPRA, malgré le fait que des fois ils arrivent avec des preuves vidéo où on entend par exemple le maire qui dit clairement qu'il devrait enlever leur plainte ou sinon il leur arrivera des choses. ce genre de choses.
Difficulté de faire valoir leur cas, parce que déjà dans un pays hyper corrompu jusqu'au plus haut niveau de l'État, quand il s'agit de prouver sa situation, eh bien il faut des témoignages et des voisins, des institutions, des hôpitaux, il faut payer. Tout se paye là-bas, même pour se faire opérer, il faut payer l'anesthésiste, il faut payer le chirurgien. Donc tout se paye et on observe vraiment des situations, mais à dormir debout, et des gens qui peuvent être en danger au retour au pays. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils ont leur OQTF, obligation de quitter le territoire, ils disent « mais moi, si je rentre, je meurs ». Quoi. Donc la migration économique, c'est une vraie raison de migrer, mais il y a aussi d'autres raisons de migrer. On a le droit de... on ne migre pas pour le plaisir, dans des conditions pareilles, dans une misère pareille. Quoi. C'est inentendable et c'est un pays qui, aujourd'hui, beaucoup d'Albanais en partent. Après, il n'y a pas que des Albanais. On voit arriver aujourd'hui des Serbes également, sur des situations aussi très critiques.
Dans l'ensemble, c'est des demandeurs d'asile quoi, donc qui seraient censés être hébergés par l'OFI.
Alors, il y a deux droits fondamentaux qui sont vraiment piétinés. Donc, les droits... La France est signataire de la Convention de Genève et cette convention amène des droits qui sont droits à l'hébergement et droits à l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile. Sauf que nous, ce qu'on voit, c'est sur la nationalité albanaise, il y a une réelle discrimination. Quand on regarde d'autres nationalités, l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, est systématiquement versée sans délai. Là, sur les migrants du camp, il y a 4 à 5 mois de délai pour le versement de cet ADA. Donc, en fait, ils n'ont rien. Ils mangent une fois par jour, si tant est qu'ils aient le rendez-vous bref. Et ils n'ont pas cet ADA non plus. Voilà.
Oui, donc on parlait tout à l'heure des lois de plus en plus répressives vis-à-vis des migrants et des demandeurs d'asile. Et là, en fait, les lois ne sont même pas respectées. Quoi. D'où la nécessité d'ouvrir un lieu, de s'organiser à un niveau... au niveau militant, quel projet vous envisagez pour l'occupation de ce nouveau lieu? Comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, le lieu a été ouvert samedi. C'est un grand lieu qui permettra pas d'héberger tout le monde, mais qui est pour nous une victoire parce qu'on dit c'est une réquisition citoyenne, là où il y a de la place, et on a des preuves là-dessus dans les CAO en région Rhône-Alpes Auvergne, il y a de la place et il y a une pénurie organisée sur la gestion des places pour les migrants, et c'est un acte éminemment politique que d'ouvrir un lieu comme celui-ci, réquisition citoyenne, en disant carence des institutions, mais à tous les étages, c'est-à-dire que les réquisitions, une municipalité peut faire une réquisition, la loi l'autorise, ça a été fait sur d'autres communes, et ça c'est une possibilité. Donc à une réquisition qui ne vient pas au niveau institutionnel, ben, les citoyens prennent le pouvoir et disent réquisition politique, réquisition citoyenne, quoi. Et il y a plein de logements de vide à Lyon, il y a plein d'hébergements vides et qui sont en état et qui peuvent accueillir du monde. On avait cité le foyer Saint-Antoine, on en a plein d'autres, ils connaissent très bien leur liste, et là, nous on y va quoi, parce que c'est inadmissible, et le fait qu'on l'ait médiatisé cette ouverture ce qu'on n'avait pas fait précédemment sur les petits lieux, c'est marqué quelque chose et ça sait, voilà, donc c'est un acte fort.
Oui, surtout après ce qui s'est passé à l'Amphiz à QC, c'est une belle perspective. Je rappelle que Colomb a promis l'ouverture de 400 places en CRA en même temps qu'il...
De rétention administrative.
Merci. En même temps qu'il n'ouvre aucune place d'hébergement supplémentaire alors même que la situation l'imposerait fortement. Merci beaucoup à vous d'être venu nous expliquer un petit peu ce qui se passait. On va continuer avec les habitants de la cabine, mais avant ça, on va écouter...
Alors, oui. Donc voilà, c'était une petite chanson de France Gall, hein, vous avez reconnu. Et donc nous continuons effectivement avec les habitants de la cabine. Alors, pourquoi et qu'est-ce que la cabine ? Donc, la cabine, c'est un magnifique squat qui est dans le 7e arrondissement, qui permet à 25 personnes d'avoir un lieu d'habitation et qui organise régulièrement des soirées politiques de soutien à des luttes diverses et variées, mais en l'occurrence régulièrement des luttes de soutien, des soirées de soutien, pardon, aux sans-papiers, à la lutte qui est menée depuis quelque temps là, en ouvrant des squats à Lyon, etc. Et donc samedi dernier, samedi il y a neuf jours, il y a eu une soirée de soutien en solidarité avec les sans-papiers notamment et d'autres. À l'Amphizède, et je vous laisse expliquer ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une attaque policière à partir de 2h et quelques du matin, et n'hésitez pas à préciser ce qui s'est passé et les activités du lieu.
Ok, du coup je précise, la cabine c'est un lieu qui a ouvert mi-septembre, on est passé devant le tribunal administratif le 13 décembre, et on est expulsable à partir du 15 février. Dans ce lieu, on est 25 personnes à vivre, en permanence, plus pas mal de personnes qui gravitent autour, on va dire une trentaine. Il y a des familles qui viennent des Balkans, notamment avec des enfants, 6 ans, 2 ans, 3 semaines. On a un enfant qui va à l'école et on est plein d'autres habitants avec des papiers ou sans papiers. Et donc ce lieu, c'est un lieu d'habitation et c'est un lieu qui a aussi une activité politique qui est évidente. On accueille beaucoup de personnes qui viennent faire des réunions à la maison pour diverses choses. Et nos soirées sont surtout des soirées de soutien. Soutien divers collectifs, des copains qui organisent des choses. Et là, le 6 janvier, c'était soirée de soutien au collectif Silo, un collectif musical. Soutien à un copain qui faisait un reportage sur la Géorgie et à l'Amphizède, le squat qui a ouvert à Cusset il y a un mois. Et du coup, le 6 janvier, que s'est-il passé ?
Ben, le 6 janvier, vers 2h du matin, on s'est rendu compte qu'il y avait une caisse de flics à l'entrée de l'impasse. On était bien 200 à l'intérieur, je pense, à ce moment-là, on était en plein milieu de la soirée. Du coup, je suis allé voir les flics pour leur demander pourquoi ils étaient là. Je m'en doutais, hein, c'était les gens dans l'impasse qui les gênaient. On est tombé d'accord sur le fait que je faisais rentrer les gens à l'intérieur du lieu et que c'était bon. C'est ce qu'on a fait. On a fait rentrer doucement les gens à l'intérieur et demander de partir à ceux qui partaient. Sauf que ça a servi à rien parce que le temps qu'on fasse ça, 10 minutes après, ils sont passés de 1 à 10 voitures de flics devant l'impasse. Donc je suis retourné les voir parce que je comprenais pas trop. Et là, ça avait complètement changé de demande. C'était plus de faire rentrer les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la cabine, on est super bien insonorisé. Même s'il y a une grosse soirée avec le son à fond à l'intérieur, on n'entend vraiment rien en étant sur le trottoir devant la façade, quoi. Et là, du coup, apparemment, ils voulaient qu'on arrête la soirée et qu'on vire tout le monde. Donc je gagne un peu du temps, je lui explique que ça va prendre du temps justement, qu'il va falloir que je coupe la musique, que je demande gentiment aux gens de partir, qu'ils finissent leur verre. Elle finit par me dire « vous avez 10 minutes ». Mais de façon très, très arbitraire.
10 minutes pour vider le bâtiment.
10 minutes pour virer tout le monde. Ouais. Mmh. C'était vraiment la demande.
Ce qui était impossible.
Ce qui est très facile, c'est vrai. 200 personnes en 10 minutes à 2h15 du matin, c'est vraiment très facile.
Bon, c'est sécurité privée, c'est mission impossible. Hein.
Je prends le temps de lui expliquer toute la démarche, qu'il va falloir que je coupe la musique, qu'on arrête le bar, que les gens... on va pas les virer à coup de pied au cul non plus. Quoi. Et à ce moment-là, elle me répond « vous avez 9 minutes 30 maintenant ».
Ah.
Donc bon, je vois que ça sert à rien de parler, je repars. On finit de faire rentrer les gens, on les voit doucement se casquer, prendre les boucliers. Et là, on a un petit cordon, les chiens. Et on a un petit cordon d'une dizaine de flics en tenue anti-émeute qui rentrent dans l'impasse. Donc on finit de rentrer, on a fermé la porte de justesse sur eux, ils avaient les mains dessus au moment où on l'a fermée. Et en 10 secondes, on s'est pris le premier coup de bélier. Deuxième, troisième, on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même tenir la porte. Donc on s'est massé derrière pour la tenir.
Il y avait une dizaine commencé... de copains qui tenaient la porte.
On a commencé à scander des slogans pour se donner un petit peu de courage. D'ailleurs, ça les a un peu calmés en face. On se rendait compte que quand on scandait, les coups de bélier, ils étaient un peu moins forts.
On se rendait compte du nombre de personnes qui étaient de l'autre côté.
Peut-être,
mais et qu'il y avait une résistance.
De tenir la porte.
Et qu'il y avait surtout une résistance à leur coup de bélier qui a duré quand même assez longtemps, quoi. Hein.
Ouais. Ils ont... Une bonne heure.
Ça a été le fil rouge de la soirée, les coups de bélier. Hein. Il s'est passé plein de choses à l'intérieur, mais par contre, on avait un métronome pendant une heure qui lâchait pas l'affaire. Alors la porte s'est décellée du bâti assez vite. Ça a vite créé des interstices, mais je pense en 5 minutes. Après, la notion du temps, elle saute un peu à ce moment-là, mais j'ai fini par sentir du coup un courant d'air sur les chevilles, et au final, je me suis rendu compte que c'était la bombe au poivre qu'ils avaient. Donc ils ont abondamment aspergé l'intérieur de la petite pièce où on était en train de tenir la porte. Ça a commencé à piquer. Et du coup, on a pu échanger un petit peu avec eux pendant ce temps-là à travers la porte. Et en fait, les seules choses qu'ils avaient à dire, c'était « Est-ce que Rémi est là ?» Référence à Rémi Fraisse.
Sympa.
Ouais.
Sympa.
Et je crois que c'était le jour de l'acquittement.
C'était le lendemain. L'acquittement était le lendemain ou deux jours après. Ouais.
Donc ça vous a vachement donné envie de les laisser rentrer, quoi.
Ouais.
Un copain a répondu, il y a Rémi, il y a Adama, il y a Théo.
Ça on est tous là. Le meilleur, a priori, s'ils cherchaient Rémi Fraisse.
Et donc ensuite, après, donc le gaz a commencé à se répandre dans tout le rez-de-chaussée.
Dans la salle. Après, moi, du coup, j'étais un peu à la porte, mais...
Ils ont aussi dit, si on rentre, on va vous défoncer.
Et c'est là, qu'à partir de là, on s'est dit que comment ils parlaient et comment ils faisaient, que si on les laissait rentrer, ça allait être compliqué pour les gens qui étaient à l'intérieur. Et comme dit Ben tout à l'heure, c'est une salle qui est très sonorisée, c'est-à-dire que les gens qui écoutaient le concert ne savaient pas vraiment ce qui se passait, c'est-à-dire que la porte était fermée ou ils n'entendaient rien du tout. Et on a dû monter sur les tables pour dire aux gens, donc on a dû arrêter la musique et dire aux gens ce qui se passait. Elle aurait expliqué qu'il y avait des coups de bélier. C'est quand ils ont compris qu'il y avait des coups de bélier et que ça commençait à sentir le poivre dans tous les sens et que les gens commençaient à pleurer et paniquer qu'ils ont compris qu'il y avait un gros problème. Donc on a dû les réfugier comme on pouvait dans la partie commune habitante qui est chez nous au-dessus, où c'est un petit 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, où on a dû mettre 150 personnes avec la terrasse pour que les gens puissent respirer, où là, à partir de là, il y a commencé à avoir des malaises parce que les gens, commençaient à défoncer les deux portes, mais on ne pouvait pas sortir non plus. Donc on était coincés à l'intérieur et où on se faisait asperger, mais de tous les côtés. Donc on a arrivé à trouver un moyen de passer les gens par le devant, mais ils ont trouvé le moyen de prendre les gens par devant et commencer à mettre les coups de matraque, coups de poivre.
Oui, c'est des gens qui sont sortis par une fenêtre en plus, parce que c'est un endroit assez confiné, hein, c'est pour ça qu'il est bien insonorisé d'ailleurs. Et du coup, les gens ont commencé à sortir par la fenêtre, ils ont été reçus avec
un coup de matraque. En fait, au début, les gens ne pouvaient pas du tout sortir. Pendant la première demi-heure, il n'y avait pas de possibilité de sortir du lieu, parce qu'il y avait les flics qui entouraient complètement le bâtiment par toutes les fenêtres. Et en fait, dès qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvre, ils étaient déjà en train eux d'essayer de l'ouvrir les fenêtres.
Donc, t'as pas un coup de matraque sur les volets.
Donc du coup, je veux dire, tu peux pas sortir à ce moment-là, ce qui est vachement contradictoire entre faut faire entrer les gens dans l'impasse et puis après faut virer tout le monde. Entre on vous demande de sortir, sauf que après on vous attend aux fenêtres à coups de matraque et à coups de gazeuse. Je veux dire, ils nous ont clairement bouclé dans le bâtiment pendant un moment et ils ont aspergé abondamment de bonbons poivre quoi.
Et outre effectivement l'ambiance sonore qui était un peu anxiogène, il y avait aussi les gaz qui étaient probablement. Non, mais voilà, effectivement, ils tapaient sur tous les. Enfin, quand on était dedans, leur présence, elle était aussi. On pouvait l'entendre à tous les instants. Et les gaz, c'était irrespirable assez rapidement dans la soirée. Quoi. Il y a une personne qui a fait une crise d'épilepsie. C'était assez impressionnant. Les gens paniquaient vraiment. Quoi. Ça aurait pu être extrêmement dangereux.
Il y a une fille à la fin de la soirée qui a comparé au Bataclan.
Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'ils sont pas gênés quand même. Il y a quand même une dame avec un enfant de 2 mois qui s'est mis à la fenêtre en disant qu'elle était là. On a quand même des familles avec des enfants, ils sont pas gênés de balancer des bons maximo par la fenêtre en sachant qu'il y avait un bébé d'un mois. Donc à un moment ou à l'autre, je pense qu'en faisant ce qu'ils ont fait, c'était une attaque personnelle à nous et ça a été surtout une insécurité pour les gens qui étaient à l'intérieur. Et là, ils ont été très dangereux parce qu'ils ont mis des gens en danger, mais très en danger. Voilà.
On leur a dit clairement à la fenêtre qu'il y avait des enfants, qu'il y avait du monde à l'intérieur et que ce qu'ils faisaient était dangereux. Et les familles ont été réveillées non pas par la musique, mais par les gaz et par les coups de bélier qu'ils entendaient clairement en dessous de leur fenêtre.
Et même pour les voisins.
Et on savait que si on tenait pas la porte, au bout du compte, ils allaient manger. Et on a tenu la porte, ils n'ont jamais rentré et c'est eux qui sont repartis tout seuls, la queue entre les jambes.
Donc alors, clairement, les flics ont attaqué le squat, ils ont mis en danger près de 200 personnes de manière très grave, ils ont menacé de casser la gueule à tout le monde s'il rentrait dans le lieu, il y a eu une résistance et tant mieux, les gens à l'intérieur ont réussi à éviter ce carnage parce que c'était un carnage annoncé il y a eu quand même... Alors, il y a deux questions. La première, c'est comment comment est-ce que vous interprétez, vous les habitants, cette attaque, qui est une attaque particulièrement violente, premièrement, illégale. Et illégale, puisque les flics n'ont pas le droit de rentrer dans un domicile sans raison, et en l'occurrence, ce lieu est expulsable le 15 février.
Ouais, il faut rappeler que le procès avait eu lieu, et que le lieu est expulsable le 15 février, ce qui le met dans une position de extrême protection. En fait, vous êtes tout à fait dans la légalité, encore plus que même avant la procédure.
Et en sachant que pour les discothèques à tabac nocturne, on ne vient pas à 90 flics venir devant la porte. Les discothèques, ça devient... On parle de chez nous qui fait des petits rires où il ne se passe rien, où les gens sont très contents, les voisins, on est très bien. Par contre, des discothèques où il y a des problèmes, où il y a de l'alcool, où il y a de la violence, il y a des bagarres tous les soirs ou tous les matins, ça, par contre, on ne vient pas à 80. Mais par contre, chez nous, on est venu à 80 et on ne sait pas pourquoi. Et on nous a toujours dit, on ne sait toujours pas pourquoi ils sont venus chez nous.
Alors, comment vous l'interprétez tout? Vous devez bien avoir une petite idée quand même, non?
Nous, on dénonce une attaque illégale. Il y a une tentative de violation de domicile et une attaque ciblée, clairement contre nous. Parce qu'à côté de chez nous, on a le petit salon qui est une boîte où, pareil, dans la rue, tu peux avoir du monde, t'as des gens bourrés, ça fait du bruit. Et il n'y a jamais eu 50 flics qui ont débarqué pour les dégager et qui sont allés taper à coups de bélier sur leur porte. Nous, après, on suppose que c'est clairement une attaque contre le squat parce que on est un squat, déjà. Un squat, c'est déjà politique de vivre dans un squat. Et ensuite, parce que nous, on a une activité politique qui est claire et on suppose qu'elle est...
Elle est connue.
Voilà. Et on le vit, enfin, ouais, nous clairement, on le voit comme une attaque ciblée contre nous.
Et du coup, qu'est-ce que vous envisagez comme suite pour cette agression, cette violation de domicile?
Ben, si on devrait répondre comme eux, on devrait répondre par la violence, on n'est pas comme ça, je pense. Ouais. Et je pense nous, on a un groupe, on est civilisé, donc on est un groupe de personnes, on va se réunir, et à partir de là, je pense qu'on va voir si on va porter plainte ou pas porter plainte pour... Mais pour le moment, on n'a encore rien décidé actuellement de ce qu'on va faire actuellement.
On recueille des témoignages.
Voilà. On a envoyé un devis à la BAC 69 aussi.
Quoi?
Un devis de la porte, parce que bon, c'est comme la porte...
D'ailleurs, en parlant de cette porte, oui...
Bah, la porte, on appelle à témoin, ou on appelle aux gens pour savoir qui c'est qui est venu oser repeindre la porte qui a été fractionnée, pour plus qu'on la voie et qu'elle est fractionnée. Je suppose que c'est la mairie qui a été fait par le bien-être de la police. Actuellement, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait, et la personne qui l'a fait, serait bien qu'elle nous le dise.
Donc la porte a été repeinte, on ne voit plus les traces de coups de bélier, même si c'est visible parce qu'il y a du relief. Mais
on voit, mais quand les gens sur les photos, on ne voit rien du tout. Donc c'est,
du coup,
c'est passé jeudi, donc quelques jours après, en fait, quelqu'un, à votre insu, est venu repeindre la porte. Que ce soit bien clair.
J'appelle cette personne à venir repeindre les murs de mon appartement.
Et à venir nous voir, parce que c'est sympathique, on a encore deux autres portes à peindre aussi, s'il veut.
Ouais. Mais bon, ouais, ça pue la dissimulation de preuves, hein, de l'attaque policière en tout cas.
Alors, du coup, pour les témoignages, on peut peut-être, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être assisté à la soirée et qui souhaiteraient témoigner, ils peuvent envoyer leur témoignage à contact@rebellion.info.
Il y a déjà des témoignages et des vidéos sur Rébellion. On voit aussi clairement sur certaines vidéos les coups de matraque portés par des flics sur des personnes qui sortent du bâtiment et les lacrymos qui sont jetés dans la rue. Du coup, nous, on veut dénoncer cette attaque qui est illégale, qui est ciblée, et aussi cette démonstration de force et tentative d'intimidation par les forces de l'ordre. Sauf que nous, on lâche pas.
Voilà. Et oui, ils ne sont pas rentrés. Hein.
Et surtout que maintenant, avec la nouvelle loi, que depuis qu'on a le droit de rentrer chez les gens sans mandat, à partir de là, ils font ce qu'ils veulent. Et à un moment ou à l'autre, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est chez nous et ils ne peuvent pas s'autodroyer de défoncer les portes sans nous demander ou sans venir nous voir pour quelles raisons. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas venus nous voir.
Oui, puis là, ce n'était pas une perquisition. Hein. Ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire. Hein. On l'a tous bien compris.
C'était vraiment casser la tête des gens, je pense. C'était plutôt ça.
Clairement de la répression.
Mais Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que sans le précédent gouvernement qui a instauré l'état d'urgence et sans le nouveau gouvernement qui l'a
normalisé
avec la loi antiterroriste, effectivement, en fait, ils n'auraient pas pu défoncer la porte comme ça sans mandat.
En sachant que si vraiment ils ont vraiment, parce que ils ont le but de quelque part, les gendarmes, ou que ce soit police, n'importe quoi, d'avoir la sécurité des gens autour de nous. Là, ce qu'ils ont fait, c'est pas la sécurité, c'est l'insécurité des gens. C'est-à-dire qu'ils ont mis pas mal de gens de vie en danger et ils s'en rendent même pas compte. Et c'est vraiment honteux.
Ou bien ils s'en rendent compte et ils s'en foutent. Hein. C'est quand même tout à fait.
Et je pense que c'est plutôt cette option qu'il faut prendre.
Pour les habitants du quartier, ça aurait été aussi une démonstration parce que, comme je disais tout à l'heure, on est vachement bien insonorisés. Je pense que c'est vraiment les gens dans l'allée qui ont plus discuté, ça parlait pas fort dans l'allée ce soir-là, en tout cas, qui ont peut-être du coup causé un appel pour ta page, hein, ça c'est possible que ce soit arrivé. Mais par contre, on a eu des retours après la soirée, on les croise, les voisins. Et du coup, pour ceux qui ont vu, ils étaient complètement hallucinés. Ils avaient jamais vu ça et ils ont été réveillés clairement par les coups de bélier.
Et surtout par les gyrophares bleus qui reflétaient dans leurs fenêtres. Hein. Donc, à un moment ou à l'autre, il faut se poser des questions. Hein.
Yeah. Moi, j'ai juste une dernière question, c'est comment on explique qu'ils soient partis comme ça au bout de presque deux heures, mais qu'ils soient partis d'eux-mêmes, en fait.
Parce qu'ils savaient bien que ça ne servait pas à rentrer à l'intérieur.
Quoi qu'il arrive. Ils ont aussi peut-être conscience qu'il y avait un certain abus dans leur pratique.
C'est probablement parce qu'ils ont vu qu'ils étaient mis en situation d'échec et que et qu'ils sont partis. Voilà.
Ouais. C'est ça.
Bon, bah écoutez, merci la cabine, les habitants, la cab in, la back out.
Merci
alors,
beaucoup.
Si vous comprenez pas, allez voir sur Rébellion.
Et on va laisser un dernier sujet qu'on avait malheureusement censuré à l'insu de notre plein gré.
Non, mais on va surtout passer à l'agenda vu l'heure, ça sera plus simple. Alors, à partir de demain, il y a la nouvelle saison en fait du Café des Femmes qui se déroule. C'est pas dans Lyon même, mais c'est quand même très très bien. C'est entre Tarare et l'Arbrel. Donc c'est une association qui permet en fait aux femmes de se retrouver, notamment autour de débats, de sons, de café. Et donc vous trouverez le programme détaillé donc sur le web et le premier événement a donc lieu demain à partir de 19h si je me trompe pas sur Tarare à vérifier. À partir de mercredi, il y a un rassemblement qui est appelé en soutien à 8h30 en fait parce que pour deux camarades qui sont décédés en fait dans le cadre de leur travail à Feur, qui est une petite ville près de Saint-Étienne et où les gens sont ces deux travailleurs qui sont décédés et il y a un procès qui après plus de 7 ans en fait pour une reconnaissance en fait des responsabilités qui ont pu avoir lieu. Jeudi, il y a à partir de 19h30 la projection d'un débat Demain l'usine, qui est un film très intéressant sur en fait la SCOP qui a été les Fralib, c'est l'ancienne usine de thé en fait éléphant qui a été repris en SCOP donc par une partie des employés et donc qui a maintenant depuis 4 ans fait tourner de cette SCOP de façon autogérée et de façon extrêmement intéressante. La projection se fait en présence de la réalisatrice et de deux militants, deux personnes qui appartiennent à cette SCOP qui vont venir pour témoigner. Donc ça c'est jeudi à 19h30 à la MJC de Villeurbanne. Et pour l'instant ce qu'on a dans l'agenda, on terminera la semaine samedi avec une rencontre avec une autrice qui s'appelle Aude Vidal qui a écrit un très très bon petit bouquin qui s'appelle Égologie donc qui revient justement qui est moi je qualifierais ça de pamphlet sur en fait les nouvelles pratiques du militantisme écologique qui sont surtout tournées vers des pratiques extrêmement individualistes et qui en niant en fait la question capitaliste qui de fait est la raison d'être en fait du changement climatique. Donc en dehors de tous ces événements, on vous invite à passer quand vous voulez à l'Amphiz, qui y a régulièrement à porter des dons si vous voulez.
Et à consulter aussi la page Facebook de l'Amphiz Solidaire qui relaie l'agenda, parce qu'il y a pas mal d'activités qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui, toute la semaine et toutes les semaines. Donc en général, le dimanche à 17h, c'est une assemblée générale, une assemblée qui a pour but de continuer le mouvement en direction de l'obtention de papier pour tous et toutes et de pérenniser en fait des solutions de logement en attendant d'obtenir des papiers. Il y a aussi des ateliers de toutes sortes, il y a toujours des besoins alimentaires, des besoins en termes de produits ménagers, de matériel ménager, genre serpillères, choses comme ça, des meubles encore. Parce qu'il y a plein d'endroits aménagés pour ranger les dons notamment. Il y a besoin de il y a des listes qui sont disponibles sur le Facebook Amphiz et Solitaire, parfois sur Rébellion quand c'est aussi relayé sur Rébellion. Donc n'hésitez pas, Rébellion, Facebook Amphiz et Solitaire, et venez le dimanche à 17h.
Solitaire, pas solitaire.
Non, en priorité, il y a vraiment besoin pour le nouveau bâtiment qui a ouvert de matériel de cuisine. Il y a beaucoup de choses qui sont en bon état, mais il y a des toutes les cuisines voilà. de chaque appartement à reconstruire.
Pour les réunions, tableaux.
Voilà. Ouais, si vous avez du
de
matos,
la papeterie, des grandes feuilles, ça c'est bienvenu.
Et des petites aussi, parce qu'on a trouvé des imprimantes. C'est très gentil aux gens qui ont apporté, et ça sera encore parfait si des gens pouvaient compléter ce généreux don voilà. avec du papier pour qu'on puisse s'en servir.
Ça c'était pour l'amphithéâtre. Maintenant pour le nouveau lieu qui n'a pas encore de nom et dont on vous a parlé juste avant dans l'entretien avec le collectif Agir Migrants.
Il faut aussi
la maison Mandela.
La maison Mandela. Donc on repart un peu à zéro puisqu'il y a 6 cuisines puisqu'il va y avoir de très nombreuses familles. Non, 6 cuisines. Et du coup, on a besoin là absolument très vite à ce lieu-là. Donc c'est à peu près au même endroit. Il y a l'adresse sur Rébellion. De matériel de cuisine, de surtout d'électroménager en fait. D'électroménager avant tout, de casseroles, de couverts, de tout ça et d'électroménager. Pour qu'ils puissent s'installer correctement. Et on vous remercie d'avance. On vous dit à lundi prochain.
C'était l'émission du lundi 102.2 Radio Canu, la plus rebelle.
Ça fera du bien.
No matter how hard you think you are, this is what the whole world thinks about you.